Bonjour, ici Martin Gauthier, vous écoutez Medcast. Le sujet de cet épisode est l'arthrite rhumatoïde, son importance clinique, la pathophysiologie de l'arthrite rhumatoïde, l'approche aux patients qui se présentent avec une douleur polyarticulaire, le différentiel de l'arthrite rhumatoïde et les principes de base du traitement. L'arthrite rhumatoïde est une maladie systémique, chronique et primairement inflammatoire de cause inconnue qui se manifeste par une douleur polyarticulaire. L'arthrite rhumatoïde touche environ 1% de la population. Elle peut atteindre les gens de tous âges et atteint les femmes 2 à 3 fois plus souvent que les hommes. L'incidence maximale est dans les 30 à 55 ans. L'événement déclencheur de l'arthrite rhumatoïde n'est pas connu, mais on soupçonne les infections virales étant donné l'étiologie auto-immune. L'activation des lymphocytes T serait la première étape dans la pathogenèse de l'arthrite rhumatoïde. Cette activation serait induite par un antigène inconnu ou par un excès de signaux accessoires de stimulation. Le génotype HLA d'un individu peut le rendre plus susceptible à cette activation atypique des lymphocytes T, particulièrement certains allèles de la famille DR4. Cependant, la présence de facteurs génétiques n'est pas spécifique ou suffisante pour causer l'arthrite rhumatoïde. Une fois que la réponse immunitaire est déclenchée, l'inflammation est soutenue par une réaction auto-immunitaire qui peut cibler le collagène type 2 trouvé dans le cartilage, le fragment constant des immunoglobulines G ou des protéines contenant l'acide aminé modifié nommé citrulline. Le facteur rhumatoïde est un anticorps IgM ou IgA dirigé contre le fragment constant des anticorps IgG. La précipitation des complexes immuns contribue au maintien et à la progression de l'inflammation. La réaction inflammatoire stimule l'angiogénèse dans la membrane synoviale. Ceci augmente le transduda dans l'articulation et facilite le recrutement des leucocytes dans la membrane et le liquide synovial. Les cellules de la membrane synoviale prolifèrent aussi en réponse aux signaux inflammatoires et forment un tissu nommé pannus. Ces cellules synoviales envahissent le cartilage articulaire et le détruisent progressivement à l'aide de protéases qu'elles sécrètent. L'os sous-chondral est aussi détruit par les ostéoclastes qui sont activés et recrutés par les cytokines inflammatoires. L'inflammation peut être clairement visualisée dans le liquide synovial. Nous passons à l'approche aux patients qui se présentent au bureau pour une douleur articulaire. La première étape est d'exclure une urgence médicale, comme un traumatisme, une atteinte nerveuse ou une arthrite septique. L'arthrite septique touche souvent une seule articulation et est souvent accompagnée de signes systémiques d'infection et d'inflammation locale prononcée et est facile à diagnostiquer à l'aide d'une arthrosynthèse. Les atteintes nerveuses peuvent être accompagnées de paresthésie, de perte de réflexe ou de faiblesse musculaire. Le nombre d'articulations impliquées permet de faire une première réduction dans le diagnostic différentiel. Une douleur monoarticulaire suggère fortement un arthrite septique, une déposition cristalline, l'hémarthrose suite à un traumatisme ou une coagulopathie, un processus néoplasique primaire ou métastatique, une présentation précoce d'une maladie rhumatismale systémique, la nécrose avasculaire ou un traumatisme intra-articulaire. La douleur polyarticulaire peut être causée par une infection systémique bactérienne, virale ou autre. Elle peut être une séquelle d'une infection, comme par exemple le syndrome de Reiter. Elle peut être un symptôme d'une maladie inflammatoire systémique ou auto-immune, comme l'arthrite rhumatoïde, la spondylite ankylosante, l'arthrite psoriasique, le lupus, les vasculites, la polymyosite. Elle peut être une manifestation d'une dégénération cartilagineuse systémique, comme dans l'arthrose. Ou elle peut être causée par d'autres pathologies, comme la déposition de cristaux, l'hypothyroïdie, un problème du métabolisme osseux, une inflammation des tissus mous, la dépression ou une atteinte neurologique. Il est important de faire une évaluation minutieuse de la douleur. Il faut établir des éléments comme la présentation initiale, la relation au cycle circadien, les agents provocateurs et soulageants, la qualité de la douleur, l'irradiation de la douleur, la sévérité, la durée, et l'impact sur la vie quotidienne du patient. Il faut aussi demander au patient si la douleur est récurrente et ses hypothèses concernant l'origine de la douleur. À l'histoire et à l'examen, il est important d'explorer l'acuité de la présentation initiale des symptômes, la présence ou l'absence d'inflammation, la distribution des articulations douloureuses, le tableau clinique, mis à part la douleur articulaire, l'évolution de la maladie, et le sexe, l'âge, la race et l'historique familial du patient. Le tableau clinique ainsi dressé aidera à limiter et diriger les tests diagnostiques demandés. Les tests qui sont utiles pour le diagnostic de l'arthrite rhumatoïde peuvent inclure une formule sanguine, la vitesse de sédimentation globulaire, la présence d'auto-anticorps comme le facteur rhumatoïde, les anticorps antinucléaires ou l'anti-CCP, une arthrosynthèse ou tout autre test nécessaire pour exclure toute pathologie qui pourrait raisonnablement expliquer le tableau clinique. Le diagnostic de l'arthrite rhumatoïde requiert une histoire de 6 semaines pour 4 des 7 critères suivants. Une raideur articulaire matinale d'au moins 1 heure. Une arthrite d'au moins 3 articulations. L'arthrite des articulations métacarpophalangiennes, interphalangiennes proximales ou du poignet. La présence de nodules rhumatoïdes. Un test positif pour le facteur rhumatoïde. Une distribution symétrique des groupes articulaires atteints. Ou des preuves radiographiques d'érosion marginale ou d'ostéopénie périarticulaire. La présence de facteurs rhumatoïdes est déterminée par l'agglutination de billes de latex recouvertes d'IgG par les IgM pentamériques qui proviennent du sérum du patient. Le test est non spécifique et relativement non sensible pour détecter l'arthrite rhumatoïde dans la population générale, mais il permet d'évaluer le cours de la maladie et aide à établir le pronostic. La présence d'anticorps anti-CCP est beaucoup plus spécifique à l'arthrite rhumatoïde. L'arthrite rhumatoïde se présente souvent de manière insidieuse, mais elle peut aussi se présenter initialement par une douleur monoarticulaire ou comme arthrite intermittente ou migratoire. Cependant, elle peut aussi se présenter de manière aiguë, souvent associée à une fièvre, un malaise général, une perte de poids, une myalgie prononcée, la fatigue et la dépression. Les groupes articulaires typiquement affectés sont les métacarpophalangiennes, les interphalangiennes proximales, les poignets, les métatarsophalangiennes et éventuellement les coudes, les épaules, les chevilles et les genoux. L'atteinte est typiquement symétrique. Il est possible que le patient ait aussi une ostéopénie articulaire, une anémie, des nodules rhumatoïdes, une pleurite, une péricardite, une atteinte neurologique, une épisclérite, la splénomégalie, un assèchement des muqueuses, une vasculite ou une néphropathie. À la première inspection, on peut observer une inflammation des articulations phalangiennes, une réduction de l'amplitude du mouvement et une perte de la force préhensile. Dans une maladie plus avancée, on peut observer une déviation ulnaire des doigts, une déviation radiale du poignet et les difformités en boutonnière et en coude cygne des doigts. L'atteinte du squelette axial est habituellement limitée à la région cervicale. La maladie progresse souvent par vagues de poussée et de régression des symptômes. La rémission spontanée est rare. L'activité de la maladie peut varier, mais les dommages cartilagineux et osseux sont irréversibles. Ce tableau clinique peut ressembler à plusieurs autres maladies. Cependant, certains indices permettent de faire la différenciation. Par exemple, le rhumatisme psoriasique présentera avec un érythème. La goutte requiert une hyperuricémie, se présente habituellement de manière aiguë et on note la formation de concrétions tophacées. L'arthrose atteint habituellement les patients plus vieux, n'est pas principalement inflammatoire, n'est pas nécessairement symétrique, atteint les articulations phalangiennes distales et présente des trouvailles radiologiques atypiques de l'arthrite rhumatoïde. Les maladies causées par la déposition des cristaux peuvent être différenciées à l'arthrosynthèse. Le syndrome de Reiter suit habituellement une infection, et se présente souvent avec des symptômes oculaires et génito-urinaires ou gastro-intestinaux. Le profil des anticorps antinucléaires est habituellement différent dans la maladie du lupus érythémateux systémique. Il est toujours important d'établir comment la vie quotidienne du patient est affectée par sa condition médicale. Le traitement de l'arthrite rhumatoïde peut être divisé en non pharmacologique, pharmacologique et chirurgical. Étant donné la nature dégénérative et irréversible de la maladie, Il est recommandé de traiter les patients avec des antirhumatismaux modificateurs de la maladie, ou DMARDs en anglais, de concert avec la thérapie non pharmacologique pour augmenter les chances d'induire une rémission. L'éducation du patient quant au cours de la maladie et le rôle des épreuves diagnostiques et du traitement est essentielle. La Société canadienne de l'arthrite offre des programmes pour le counseling des patients. L'exercice modéré est nécessaire pour éviter l'atrophie musculaire et pour maintenir la souplesse des tendons et des ligaments. La physiothérapie peut servir à réduire la douleur et l'inflammation de façon temporaire et peut aider à conserver la fonction des articulations. Il est aussi très important de réduire le risque d'ostéopénie et d'athérosclérose à l'aide de la nutrition et de la pharmacothérapie appropriée. Le traitement pharmacologique symptomatique consiste d'analgésiques comme l'acétaminophène ou le tramadol ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens comme les COX-2. Cependant, ces produits ne modifient pas le cours de la maladie. Les glucocorticoïdes oraux, intraveineux ou intra-articulaires fournissent une plus grande réduction de la douleur, mais ont le désavantage de contribuer à l'ostéoporose. Les antirhumatismaux modificateurs de la maladie, ou DMARDs, sont des produits qui servent à prévenir ou réduire l'inflammation et la dégénération articulaire. Il y a plusieurs classes d'agents pharmacologiques dans les DMARDs, comme des anticorps anti-TNF, des inhibiteurs de la synthèse des purines comme le méthotrexate, des inhibiteurs de la prolifération leucocytaire, des inhibiteurs de synthèse des cytokines, des inhibiteurs de métalloprotéinases, des antagonistes de la fonction interleukine, des anticorps anti-lymphocytes B et d'autres. Comme d'habitude, toujours respecter les contre-indications habituelles pour ces médicaments. Le traitement préféré en ce moment pour une présentation initiale est une forte dose de glucocorticoïdes avec une thérapie combinée DMARD méthotrexate avec une réduction rapide de la dose de glucocorticoïdes. Si les dommages articulaires sont prononcés, on peut fusionner l'articulation, ce qui est associé avec une perte considérable de la fonction, ou remplacer l'articulation, qui est associée avec un risque accru d'infection, de thromboembolie ou de dysfonction. Cet épisode a présenté l'arthrite rhumatoïde, son importance clinique, la pathophysiologie de l'arthrite rhumatoïde, l'approche aux patients qui se présentent avec une douleur polyarticulaire, le différentiel de l'arthrite rhumatoïde et les principes de base du traitement. Cet article est principalement fondé sur les articles up-to-date portant sur la douleur polyarticulaire, l'arthrite rhumatoïde et l'arthrose, ainsi que le grand dictionnaire terminologique, enregistré le 5 décembre 2007.